garder le fun. Je pense que c'est ça le point le plus important. Il faut s'assurer qu'on se rappelle, on appelle ça jouer à des sports. C'est parce que c'est un jeu, c'est supposé d'être plaisant.
Bienvenue à Intelligence sportive, la perspective canadienne, un balado présenté par le Centre de documentation pour le sport au Canada, mieux connu sous le nom du CIRC. Je suis votre animatrice Kim Gertler. Et aujourd'hui, nous plongeons dans la recherche sur ce qui stimule la participation au sport au Canada et ce qui motive les Canadiennes et Canadiens à faire du sport, mais surtout à rester actifs. Nous commençons la série par une question de dont tous les parents, entraîneurs et organismes sportifs investis se sont posés. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant continue à pratiquer un sport à l'âge adulte? On sait que le sport a des bienfaits incroyables à tout âge et pourtant, le taux de participation au sport à Canada baisse avec l'âge, surtout lors du passage à l'adolescence et encore plus à l'entrée dans l'âge adulte, et en particulier pour les jeunes femmes et les filles. Pour nous aider à répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui le Dr Mathieu Bélanger, professeur au département de médecine familiale et d'urgence de l'Université de Sherbrooke, épidémiologiste au réseau de santé Vitalité. De 2011 à 2023, Dr Bélanger a été le chercheur principal de l'étude MATCH, une étude longitudinale financée par le CRSH et Sport Canada qui a suivi près de 1000 jeunes de la 5e ou de la 6e année jusqu'au début de la vingtaine. Une cueillette de données sur une période de 12 ans a permis à Dr Bélanger et son équipe de mieux comprendre ce qui influence l'engagement sportif ou l'abandon du sport en grandissant, y compris l'impact de la pandémie de COVID-19. Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Ah ben Kim, c'est moi qui vous remercie.
Ta recherche aussi, c'est une recherche qui était pas mal spéciale parce que c'est pas commun qu'on fait de la recherche sur un groupe pendant une si longue période de temps. Puis en effet, un projet de recherche comme le tien, ça s'appelle un projet de recherche longitudinale, donc qui est courante dans des domaines comme l'épidémiologie pour analyser les risques de maladie et la santé à long terme. Mais c'est pas souvent que c'est utilisé dans le domaine du sport. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, tu penses?
Je pense que dans le monde sportif ou dans le monde de la science sportive, on est habitué de faire des interventions à assez court terme, puis d'avoir des impacts très rapidement. Puis on a bâti toute une programmation de recherche autour d'un modèle comme ça. On fait des petites interventions. Souvent, des interventions, c'est une seule séance, donc une heure, puis après ça, on mesure les effets, les changements physiologiques. On peut faire des programmes d'intervention aussi sur des périodes de quelques semaines, 12 semaines, etc. Puis on voit des impacts importants des changements d'activité physique sur que ce soit la cognition, la santé physique, émotionnelle, etc. Donc, on a développé cette habitude-là de faire des études à plutôt court terme puis de voir des impacts. Mais il nous manque quand même beaucoup d'informations parce que les comportements, c'est des choses qui se développent sur une vie au complet. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant puis important aussi de se lancer dans des études longitudinales qui vont suivre les gens pendant plusieurs années. Puis c'est ça qu'on fait avec l'étude MATCH qui, d'ailleurs, est encore en cours. Hein. Ça fait 14 ans qu'on suit les participants de l'étude MATCH.
Je trouve ça vraiment fascinant qu'ils continuent à participer, qu'ils sont intéressés, surtout à cet âge-là. Je trouve ça merveilleux.
Oui, ben merci de le souligner. Puis absolument, je pense que c'est plutôt rare qu'on peut suivre les jeunes. Les jeunes, il y avait 10 ou 11 ans qu'on a commencé à les suivre. Maintenant, ils sont dans la mi-vingtaine. Donc, on a couvert des périodes de vie qui sont charnières en termes de développement de comportement. On sait que les habitudes sportives, typiquement, vont atteindre un summum là, au niveau autour de l'âge de 12 ans. Dans l'étude MATCH, il y a autour de ça, 12-13 ans, où les gens ont eu leur plus haut niveau d'activité physique puis de participation au sport. Puis c'est diminué progressivement en moyenne dans les années qui ont suivi. Mais on a eu donc la transition de l'enfance à l'adolescence, ensuite la transition de l'adolescence vers la graduation, la fin des écoles, des études secondaires, ensuite pour certains, l'entrée sur le marché du travail, pour d'autres, les études postsecondaires. Donc, la transition vers le début de l'âge adulte, c'est une transition encore très importante pour changer les habitudes de vie. Donc, c'est super intéressant de pouvoir documenter tout ça là, en temps réel, de façon naturelle.
Ben oui, exactement. Alors là, l'étude MATCH a suivi près de 1000 jeunes pendant 14 ans, de l'adolescence à l'âge adulte. Qu'est-ce que les données nous disent sur la participation sportive des jeunes Canadiens et Canadiennes et quels sont les éléments clés qui favorisent la pratique sportive à long terme?
C'est une question très chargée. Ben, je vais commencer par la première partie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a appris par rapport à la participation sportive des jeunes Canadiens. Une chose qui était déjà quand même assez bien documentée, c'est qu'il y a une diminution du niveau d'activité physique et de participation au sport quand les jeunes progressent dans l'adolescence. Donc, on a observé ça. En moyenne, il y a une diminution de participation sportive. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si c'est la majorité des jeunes qui connaissent une telle diminution de participation au sport, il y en a quand même une bonne proportion de jeunes qui, eux, maintiennent un haut niveau de participation sportive. Puis on a tendance à pas beaucoup parler de ces jeunes-là dans les études. Donc, avec l'étude MATCH, on a pu décrire ces jeunes-là qui servent un peu d'exemple, puis on peut voir comment eux se distinguent des autres par rapport à plusieurs déterminants potentiels de la participation au sport. Ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est multifactoriel. On parle de comportements hyper complexes. Donc, ce qui va expliquer qu'une personne maintient ou pas sa participation sportive ne va pas être une recette qui va nécessairement s'appliquer à une autre personne puis mener au même résultat. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs intrinsèques, donc la personnalité de l'individu, comment elle se ressent par rapport à sa participation sportive, il y a son environnement social aussi, l'appui qu'elle peut recevoir des parents, de ses pairs, de ses amis, du système scolaire ou sportif. Puis ensuite, il y a l'environnement physique aussi qui a une grande influence.
Alors là, tu as mentionné les parents puis la famille. Le comportement des parents, c'est un sujet de discussion pas mal important pour les personnes qui travaillent et font du bénévolat dans le domaine des sports pour les jeunes. L'étude MATCH a-t-elle donné des pistes intéressantes sur l'influence des parents sur la pratique sportive de leurs enfants?
Oui, parmi tous les déterminants qu'on a étudiés, là, c'est sûr qu'on a étudié l'influence parentale. Les parents peuvent avoir une grande influence sur la participation sportive des enfants de différentes façons. Il y a les comportements qu'eux-mêmes présentent. Donc, si les parents eux-mêmes pratiquent le sport, souvent, ça va apporter leurs enfants à être plus actifs physiquement. Surtout si les parents pratiquent un sport qui est moins commun. Il y a des sports très populaires, je vais nommer le soccer, le hockey sur glace, le vélo, par exemple. C'est des activités physiques qui sont pratiquées par beaucoup de gens. Donc, au quotidien, les jeunes sont exposés à ces activités-là. Mais quand il y a une activité qui est pratiquée par le parent qui est un peu moins populaire, ça augmente les chances que son enfant pratique aussi cette activité-là. Donc, ça fait les choses intéressantes, là, de sorte que toutes les expositions à une activité sportive peuvent augmenter les chances qu'une personne commence ou initie cette pratique-là. Ensuite, une autre chose qu'on a remarqué, c'est que le type de soutien qui est offert par les parents pour la pratique sportive va avoir une grande influence sur le comportement adopté par l'enfant. Donc, si le parent offre un soutien qui est tangible, c'est-à-dire que le parent va faciliter la participation au sport, soit en payant les frais d'inscription, s'assurant qu'il y ait de l'équipement de qualité pour pratiquer le sport, en offrant de conduire aux pratiques ou aux parties. Donc ça, c'est un sport qui est tangible. Ça va vraiment favoriser la participation sportive. Les parents, eux, qui pensent bien faire, mais que des fois, ils exécutent un comportement de contrôle. Ça va avoir des effets plutôt néfastes sur la participation sportive. Donc, un comportement de contrôle, ça peut être de forcer son enfant à bouger ou de lui rappeler de façon répétitive que c'est important de faire du sport, c'est important de bouger. Tu devrais peut-être faire quelque chose aujourd'hui. Tu n'as rien fait encore aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tu devrais aller pratiquer ton sport? Donc, ce qu'on appelle en anglais le nagging. Mm-hmm. Donc, ça va avoir des effets néfastes. Puis, un autre comportement parental qui est quand même assez commun, c'est d'apporter des reproches par rapport à la participation sportive à son enfant. Soit en revenant d'une pratique sportive, donc dans la voiture, le parent conduit, puis pense pouvoir motiver son enfant en lui disant que ça serait bien qu'il s'applique un petit peu plus pendant les pratiques, qu'il mette plus d'efforts. Donc, quand il y a des critiques comme ça par rapport à la performance de l'enfant, ça va avoir des impacts, malheureusement, qui sont négatifs sur la participation sportive du jeune.
Alors là, j'ai une autre question pour toi. Encore, c'est les barrières de participation au sport. Alors, Puis on entend souvent parler de différents genres de barrières comme le coût et l'accessibilité qui empêchent certains enfants, certaines familles de faire du sport. Et puis quelles sont les barrières qui vraiment influencent la participation au sport?
Oui, mais on a identifié une vingtaine de différentes barrières qui pouvaient peut-être influencer qu'on pensait initialement qui pourraient peut-être influencer la participation sportive. Puis avec des modèles statistiques, on a pu rassembler ces barrières-là ensemble. Puis finalement, ça nous a donné deux catégories de barrières. Donc, les barrières qui sont internes ou intrinsèques, puis celles qui sont externes ou extrinsèques. Puis la distinction, c'est que les barrières internes, c'est ce que l'individu perçoit. Donc, c'est son intérêt qui change, sa perception aussi d'être compétent ou d'avoir de l'autonomie par rapport à ses choix, quel type d'activité il va participer. Donc, des sentiments comme ça. Alors que les barrières externes, c'est plus des choses comme est-ce que le sport est disponible? Est-ce que ça coûte beaucoup d'argent qui n'est pas nécessairement accessible? C'est vraiment à l'extérieur du contrôle de l'individu. Ce qu'on a trouvé, c'est que à long terme, les barrières internes sont très importantes. Donc, c'est des barrières qui pourraient influencer si une personne va maintenir ou pas sa participation sportive, alors que les barrières externes sont peu importantes. Donc, même s'il y a plusieurs barrières externes qui se présentent, si l'individu a un bon contrôle de ses barrières internes, cette personne-là va être capable de surpasser les barrières externes. Donc, elle va trouver des solutions pour aller au-delà des barrières externes, puis trouver une façon de participer au sport.
Je suis votre animatrice Kim Gertler et vous écoutez Intelligence sportive, la perspective canadienne. Aujourd'hui, on parle avec Dr. Mathieu Bélanger, le chercheur principal de l'étude MATCH, une étude longitudinale qui, pour mieux comprendre ce qui influence l'engagement sportif ou l'abandon du sport en grandissant, y compris l'impact de la pandémie de COVID-19. Ce balado est présenté par le Centre de documentation pour le sport au Canada, mieux connu sous le nom du CIRC. On change de direction un petit peu. Là, on va parler un petit peu plus des modèles de développement de participation sportive. Alors, plusieurs de nos auditeurs connaissent peut-être les modèles de développement des athlètes. Alors, comment est-ce que les résultats de l'étude MATCH s'alignent-ils avec ces modèles?
Ce qui est intéressant, c'est que, étant donné qu'on a autant de données sur autant d'années, on a été capable de documenter comment les comportements se développaient réellement là, de façon naturelle chez une grande variété de jeunes. Puis, ce qui est intéressant, c'est que on a pu confirmer plusieurs des postulats qui sont proposés dans les modèles de développement sportif. Mais on a fait des découvertes supplémentaires. C'est qu'il y a d'autres types de trajectoires qui semblent exister aussi, puis qu'on décrit pas en autant de détails dans les modèles de développement du sport. Par exemple, on a découvert qu'il y a quand même une bonne proportion de jeunes qui s'initient au sport à un jeune âge, qui prennent goût à l'activité physique au travers du sport, puis qui maintiennent après ça un style de vie plutôt actif, mais à l'extérieur du monde sportif. Donc, ils se sont initiés à l'activité physique via le sport, mais qu'éventuellement, pour une raison ou une autre, ont décidé de poursuivre l'activité physique dans des contextes qui sont pas organisés et non sportifs. Si on s'était fié uniquement au modèle de développement du sport, on aurait catégorisé ces gens-là comme étant des dropouts, donc ceux qui abandonnent le sport. C'est peut-être vrai qu'ils ont abandonné le sport, mais ils n'ont pas abandonné l'activité physique pour autant. Donc, c'est des gens qui peuvent demeurer très actifs physiquement. Une autre chose qu'on a remarqué, c'était l'importance des activités non organisées. Donc, dans les trajectoires de développement du sport, on décrit beaucoup la participation sportive en fonction de la participation à des activités organisées. Mais il y a aussi une grande partie de l'activité physique ou même de la préparation sportive qui se fait dans des contextes non organisés, non structurés et qui est très importante pour le maintien de l'activité physique à long terme. Donc, une chose qu'on remarque, c'est que les gens qui ont pratiqué plus d'activités non organisées, que ce soit uniquement des activités non organisées qu'ils pratiquaient ou en combinaison avec des activités qui sont plus organisées, les gens qui ont été exposés à plus d'activités non organisées là, quand ils étaient jeunes ont tendance à maintenir l'activité physique beaucoup plus longtemps dans leur parcours de vie.
C'est fascinant les informations que tu peux partager, surtout considérant le montant de temps que tu as suivi les mêmes personnes. L'autre chose que je t'ai demandé, c'est que l'étude MATCH a fourni une quantité absolument incroyable d'informations au courant des années. Puis là, c'est quoi tes prochaines étapes? Est-ce que tu continues ou est-ce que tu changes de projet?
Bien, le projet Match, on continue encore avec ces participants-là. Donc, c'est ça. Les participants, ils ont dans la mi-vingtaine, puis on continue de les questionner. Puis on continue d'étudier leurs réponses qu'ils nous ont données quand ils avaient 10 ou 11 ans pour voir quelle influence ça a sur leur comportement aujourd'hui. Donc ça, on continue ça, puis on espère pouvoir continuer ça encore plusieurs années. Mais c'est sûr que ces participants-là qu'on a encore, mais quand ils avaient 10 ou 11 ans, ça reflète plus nécessairement les comportements des jeunes d'aujourd'hui de 10 ou 11 ans. Ça fait que peut-être qu'éventuellement, il va falloir lancer une autre étude longitudinale comme Match, puis recommencer un peu ce qu'on a fait pour voir est-ce que tous ces facteurs-là qu'on a identifiés dans le temps, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Est-ce que ça fonctionne encore de la même façon aujourd'hui?
Ça serait quelque chose de vraiment intéressant de comparer les enfants de 14 ans passés comparés aux enfants d'aujourd'hui de 10 ans. Je pense que c'est pas pareil pantoute. Il y a tellement de choses qui ont changé dans le monde depuis les derniers 14 ans. Ça serait vraiment fascinant. D'après la recherche que tu as faite, des choses qu'on pourrait partager avec nos auditeurs, parents, coachs, au sujet de qu'est-ce qui pourrait aider à garder un enfant intéressé à participer dans le sport?
Il y a tellement beaucoup à répondre à cette question-là, mais je vais essayer de garder ça assez simple pour mettre l'emphase sur peut-être quelques éléments de réponse. Premièrement, je pense qu'il faut mettre beaucoup d'attention sur l'importance de la diversification sportive. Donc, je pense qu'en tant qu'entraîneur ou même parent, quand on voit un athlète, c'est peut-être même pas correct de parler d'un jeune de 10, 11, 14 ans comme étant un athlète. Peut-être qu'on devrait plus penser à cette personne-là comme étant une personne qui est en train de grandir puis devenir un membre important de notre société. Donc, faudrait peut-être enlever le focus sur la performance sportive. Surtout si le focus vers la performance sportive vient au détriment de l'exposition à une multitude de différents sports et activités physiques. Donc, je dis ça parce que ce qu'on a découvert, c'est que c'est hyper important pour qu'une personne maintienne sa participation à l'activité physique à long terme. C'est hyper important qu'elle soit exposée à une grande variété d'activités physiques dès un jeune âge, mais qu'elle maintienne cette diversification d'exposition-là toutes les années de sa vie. Donc, se spécialiser dans un sport, surtout le faire très, très tôt, au détriment des autres activités, c'est plutôt néfaste pour le maintien de l'activité physique à long terme. C'est sûr qu'on va voir des très bonnes performances chez les jeunes qui se spécialisent tôt dans un sport. C'est sûr qu'on, étant donné qu'ils se spécialisent dans le sport, ils vont devenir plus compétents dans ce sport-là, mais à long terme, ça risque de leur nuire. Donc, numéro un, je dirais, mettez de l'emphase sur la diversification sportive. Mettez aussi de l'emphase sur la participation à des activités qui sont non organisées. Une autre chose que je pense qu'il est important de souligner, c'est l'importance de nourrir le sentiment de compétence. Donc, chez nos jeunes, il faut trouver toutes sortes de manières possibles pour leur permettre de se sentir compétents. Parce que les jeunes, peu importe le contexte, ils vont trouver un moyen de se comparer avec les autres. Des fois, ça se fait pas consciemment quand ils sont plus jeunes, mais éventuellement, ils vont réaliser que oh, il y en a d'autres qui patinent plus vite, puis il y en a d'autres qui frappent plus fort, puis il y en a d'autres qui lancent vraiment, etc. Il faut des moyens de souligner que la personne est compétente. C'est pas tout par aux autres. Des fois, il faut mesurer par rapport à son propre progrès ou mesurer par rapport à ses capacités. Puis garder le fun. Je pense que c'est ça le point final le plus important. C'est, on se rappelle, on appelle ça jouer à des sports. C'est parce que c'est un jeu, c'est supposé d'être plaisant. Donc, c'est probablement le plus important.
Oui, j'aime ça, remettre l'emphase sur le fun dans le sport, parce qu'on joue un sport. Mentionner qu'on participe dans le sport pour des raisons de plaisir, c'est une excellente façon de terminer notre discussion. Alors, un énorme merci, Mathieu, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé ce que tu as appris au cours de plus de 14 ans de recherche sur les habitudes des jeunes Canadiens et Canadiennes en matière de sport et d'activité physique, puis tu as partagé plusieurs petits conseils pour nous aider en tant que parents et coachs pour s'assurer que nos enfants participants aient du plaisir et pour assurer une participation au sport de longue durée. Alors, un grand merci, Mathieu.
Merci, moi, Kim. Ça a été un plaisir.
Voilà qui fait cet épisode d'Intelligence sportive, la perspective canadienne. Je vous remercie de vous être joints à nous pour examiner de plus près les dynamiques cachées du sport canadien. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux à Cirque Canada sur Instagram ou à Cirque Tweets sur X. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines conversations avec les grands penseurs du système sportif. Dans les semaines à venir, nous continuerons à nous pencher sur les facteurs qui favorisent la participation au sport au Canada et sur ce qu'on doit faire pour que les Canadiens et Canadiennes jouent et restent actifs plus longtemps. Merci d'avoir écouté et à bientôt!